foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 11 novembre 2020. Alors bienvenue à la table ronde de cette émission qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. Ce qu'on demande à ces spécialistes, c'est de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui parfois nous submergent. Alors, ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs vont venir discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi d'abord vous les présenter. Il y a Sabrina Di Matteo, directrice adjointe à la formation continue à la Conférence religieuse canadienne. Bonjour Sabrina.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors, il y a aussi Simon Maltais, éditeur adjoint, livre religieux aux éditions Novalis, Bayard Canada. Bonjour Simon.
Bonjour François.
Et enfin, Francis Daou, un bibliste et le directeur général de SOCABI, la Société catholique de la Bible. Bonjour Francis.
Bonjour François.
Alors, aujourd'hui, il sera question de détresse psychologique et de santé mentale. Il sera aussi question du volumineux rapport publié mardi par le Vatican sur l'ascension et puis la déchéance du cardinal américain Theodore McCarrick. Mais d'abord, prenons un bon moment pour discuter des résultats des élections aux États-Unis. Alors, inutile de vous le rappeler, l'élection présidentielle américaine de 2020 a eu lieu le 3 novembre dernier, il y a exactement 8 jours. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'Election Day. Il y avait aussi cette journée-là des élections sénatoriales et législatives. L'élection présidentielle doit permettre d'élire au scrutin indirect le prochain président des États-Unis. Les électeurs vont élire les grands électeurs. Ils sont en tout 538 membres dans le collège électoral. Ce sont ces grands électeurs qui vont ensuite élire, le 14 décembre 2020, le prochain président et la prochaine vice-présidente des États-Unis, ou peut-être le prochain vice-président des États-Unis, mais on sait déjà comment vont voter la majorité de ces grands électeurs du collège électoral. Le président en fonction, un républicain, se nomme Donald Trump et il est candidat pour un second mandat. Du côté du Parti démocrate, c'est bien Joe Biden qui est vice-président, lui, des États-Unis depuis en 2009 et 2017. C'est un homme qui connaît bien la machine présidentielle et la machine aussi administrative des États-Unis. Respectivement, 77 et 74 ans, Joe Biden et Donald Trump sont les deux plus vieux candidats démocrates et républicains à la présidence de l'histoire américaine. Leurs coulissiers sont les républicains Mike Pence, le vice-président sortant, et la démocrate Kamala Harris. Alors, le 3 novembre dernier, nous avons chacun et chacune entamé notre nuit de sommeil sans savoir qui avait gagné. Le mercredi matin 4 novembre, à notre réveil, nous constatons que le dépouillement des votes est toujours en cours. Aucun gagnant n'est encore projeté, même si durant la nuit, le président Trump a annoncé qu'il avait gagné et qu'il allait tout faire pour protéger sa victoire. Mais ce n'est que le samedi 7 novembre 2020 que les principaux médias américains ont annoncé la victoire de Joe Biden, qui devient le président élu. Selon les résultats obtenus ainsi que les projections dans certains États, Joe Biden aurait obtenu 279 grands électeurs, soit 9 de plus que le nombre de grands électeurs nécessaires pour obtenir la victoire. Donald Trump en aurait 214. Les chiffres ne sont pas complets jusqu'à maintenant. En 2021, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Mais ceci dit, le 45e président Donald Trump n'a toujours pas concédé la victoire. Il répète que des millions de votes sont illégaux, que les États-Unis viennent de vivre leur plus grande fraude de toute leur existence. Il demande des recomptages et intente des recours judiciaires. Hier même, le procureur des États-Unis a autorisé l'ouverture d'enquête sur le scrutin. Bon, allons-y d'abord avec un premier tour avec nos trois analystes. Francis Daou, vous êtes un amateur des élections américaines. Vous vous intéressez aux élections autant que vous vous intéressez au sport, si j'ai bien compris. Et vous n'avez absolument pas manqué cette soirée électorale-là du 3 novembre.
Effectivement, François, vous avez dit que bon, on s'est couché en se demandant quel était pour être le résultat des élections. Écoutez, moi, je me suis couché, il était rendu 6 heures du matin. J'étais incapable de me séparer de mon ordinateur et de suivre là, qu'est-ce qui se passait avec les élections, personnellement. Et puis, bon, pour en débattre, moi, je l'ai vécu comme étant un événement historique majeur. Pour moi, c'était l'histoire qui se déroulait là, devant mes yeux mardi soir. Et je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité. Pour moi, bon, l'élection de Donald Trump pour un deuxième mandat, ça aurait eu des conséquences très graves à plusieurs niveaux. Hein, au niveau bon, de la montée bon, de l'extrême droite, pour ne mentionner que ça, une continuité dans bon le clivage et des inégalités sociales dans les relations internationales, dans l'environnement. Alors, j'étais très inquiet du résultat de ces élections-là. J'étais confiant en la victoire de Biden, mais j'avais hâte qu'on confirme que Trump serait pas réélu pour un deuxième mandat. Et quand, bon, ça a été annoncé, ça a pris plusieurs jours, j'ai eu vraiment là, un soupir de soulagement de me dire, bon, mais on s'en va pas dans cette direction-là. On n'est pas américain. Évidemment, ce sont nos voisins directs. Il y a un impact direct. J'étais soulagé pour les Américains, pour nous, pour le monde et beaucoup pour mes fils. J'ai pensé à eux beaucoup. Je me suis dit, si on a un président américain qui continue à nier la science et puis la réalité des changements climatiques, quel genre de monde, dans quel genre de monde ils s'en vont? Et on dit souvent bon, que les élections d'un deuxième mandat, hein, c'est vraiment une évaluation du travail du président. Si on considère qu'il a fait un bon travail, on va le réélire pour un deuxième mandat. Si on n'est pas satisfait de son travail, eh bien, on limite son mandat à un seul. Et je crois que les Américains ont dit haut et fort non à Donald Trump. Et on a dit non à la haine, au racisme, au fascisme, au mensonge, un élément très important. Je voudrais pas qu'on ait dit non à la dictature. On n'était pas rendu là, mais c'était une sorte de monarchie hein, qu'on est en train d'avoir aux États-Unis, d'un homme qui, s'entourait des personnes qui pensaient comme lui, qui congédiait toutes les personnes qui avaient une opinion contraire. Et on a dit, bon, oui, à la science, à la diversité, à la lutte au changement climatique, à la coopération internationale, à la démocratie, on pourra en reparler tout à l'heure, mais puis à la lutte aux inégalités sociales aussi.
Pour moi, c'est un regard très positif sur ce qui s'est passé là, mardi dernier, même s'il y a encore des nuages là sur cet événement-là.
Oui, je porte un regard positif parce que Joe Biden avait dit l'enjeu de cette élection-là, c'est l'âme du pays. Et c'est ce que je pense également. Il y a une question, c'est ça, je pense, éthique, là, et puis une question au niveau de l'âme du pays. Les réactions qu'on a vues samedi, les gens qui sont sortis spontanément dans les rues pour célébrer, tu sais, c'était quelque chose, c'était pas sans précédent parce qu'on avait vu la même chose quand Osama bin Laden avait été capturé et exécuté. Mais à ce moment-là, ce qu'on célébrait, les Américains célébraient, dans le fond, ils avaient sauvé leur honneur. Tandis que samedi, je crois que quand ils célébraient, ce qu'ils célébraient, c'est d'avoir sauvé leur âme. Et une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que malgré, bon, les résultats sont pas encore finaux, Donald Trump s'oppose, bon, appel à la fraude et ainsi de suite, mais c'est quand même une victoire convaincante de Joe Biden. Il a récolté le plus de votes de toute l'histoire des élections présidentielles. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a jamais eu autant de personnes, autant d'électeurs aux États-Unis non plus. Mais c'est le plus haut taux de participation aussi pour les élections depuis 1908. Donc, et le tour de force de Biden n'est pas à diminuer. Bon, il a pris tout ce qu'on appelle le mur bleu, là, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Il est probablement en train de prendre la Géorgie aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de gros qui se produit présentement. Un tournant important. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre.
Alors, vous parlez d'une victoire très convaincante de Joe Biden. Il reste que le président Trump, lui, a obtenu 72 millions de voix. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Simon, êtes-vous aussi positif que Francis là, dans votre évaluation des événements depuis le 3 novembre dernier?
Ben, je suis aussi positif par rapport aux résultats, dans le sens que je suis très content que ce soit Joe Biden qui a été élu. Mais par rapport à tout le caractère si extraordinaire, j'ai des grosses réticences. Parce que bon, effectivement, oui, c'est une belle victoire pour Biden, mais on peut pas parler d'un désaveu de Trump du tout. Trump a eu plus de voix finalement que même Obama lorsqu'il avait été élu en 2008. C'est sûr qu'il y a toute la question du nombre d'électeurs qui est en cause. Mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, mais on voit très bien que les États-Unis, c'est un pays qui est très divisé et qu'il y a vraiment les deux camps ont leur propre système qu'on pourrait dire culturel, les mêmes systèmes de valeurs. J'ai la misère à faire une analyse trop morale de cette situation-là, où est-ce que Donald Trump représente le mal et que les démocrates ont rétabli l'ordre comme il se doit des États-Unis. Parce que bon, Donald Trump, c'est un personnage exécrable. Il a énormément de défauts, mais pour qu'il y ait 70 millions de personnes qui décident de voter pour lui, non pas voler, c'est un beau lapsus, excusez-moi, pour que 70 millions de personnes aient décidé de voter pour lui, on peut pas présupposer que c'est 70 millions de personnes qui sont pour la haine, pour la division, pour le racisme, pour le sexisme. Ces gens-là, il y en a certains qui sont fanatisés, bien sûr, mais il y en a d'autres aussi qui ont fait un choix très rationnel en faveur de Donald Trump. Donc, oui, on a un changement de garde au niveau présidentiel, un changement de garde qui s'accorde beaucoup plus avec mes valeurs personnelles, mais Joe Biden va avoir un énorme travail à faire pour rassembler cette nation-là et faire en sorte que des gens ne se sentent pas laissés pour compte. Parce que Donald Trump, qu'est-ce qu'il incarnait? On parle beaucoup du Trumpisme, qui est en fait une forme de populisme. Qu'est-ce qu'il incarnait? Il incarnait un refus de l'ordre établi. Et finalement, aux États-Unis, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'aristocratie néolibérale, où est-ce que c'est des gens bien nantis, toujours des mêmes familles qui sont élus au poste politique. Et lui, il incarnait ce refus-là, dans lequel se reconnaissent beaucoup de gens, et pas seulement pour des raisons de haine ou de refus, mais simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir été laissés pour compte, surtout avec à cause de la mondialisation dans les dernières années, où est-ce que des gens ont vécu dans la misère, ont perdu leur emploi et sont retrouvés finalement complètement, on leur a enlevé toute fierté.
Donc, alors, une semaine après le 3 novembre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un pays qui est fortement divisé, mais en même temps, et je me tourne vers Sabrina Di Matteo, on a aussi de bonnes nouvelles. On appréhendait beaucoup une question de guerre civile, même un peu avant les élections. On disait que peut-être que le pays pourrait tomber en guerre civile si un des deux camps n'acceptait pas les résultats. On a aussi, et une bonne nouvelle, je pense que vous vous voudrez le souligner, Joe Biden est élu à la présidence, c'est une femme qui est élue à la vice-présidence, Kamala Harris, et qui a, le samedi dernier, fait un excellent discours, à mon avis, et c'est peut-être votre appréciation, en tout cas, Sabrina, parlez-moi davantage.
Oui, c'est en fait vraiment un moment historique que de nombreuses personnes ont souligné, cette victoire de Kamala Harris, qui devient donc la première femme vice-présidente, première femme noire. Et c'est intéressant parce qu'avec tout ce qui a brassé au niveau des questions raciales, de l'antiracisme, elle représente en fait, on a beaucoup parlé d'elle comme une femme noire, elle est d'origine jamaïcaine, mais elle est aussi d'origine indienne. Et donc, en fait, je trouve qu'elle, plus que juste la question noire ou afro-américaine, elle représente en fait le métissage qui est de plus en plus présent dans tellement de pays, particulièrement aux États-Unis. Évidemment, dans cette victoire, vraiment devient un modèle pour beaucoup de petites filles. Elle avait ses deux nièces avec elle. Là. C'était un très beau moment. Il reste que, elle avait aussi été la première sénatrice noire, donc elle a vraiment un parcours de première. C'est intéressant de se dire que Joe Biden, ayant 78 ans, cette victoire, bon oui, qui restera à confirmer d'ici le 20 janvier, on va se croiser les doigts pour la suite, mais en fait cette victoire peut positionner Kamala Harris pour la suite, advenant que Joe Biden ne complétait pas son mandat de 4 ans ou qu'un deuxième mandat est possible et qu'elle-même pourrait prendre la tête des démocrates. Je serai très intéressée à suivre ce qu'elle va embrasser comme cause. En particulier, vous allez me voir venir, là, mais par rapport aux femmes, il y a eu tellement de recul sous l'administration de Trump. On pense à des États là, qui ont excessivement limité l'accès à des services de planification familiale, à l'accès à l'avortement, aux cliniques, en fait. Et puis, comprenez-moi bien, c'est un sujet extrêmement délicat. Il y a toutes sortes de manières d'être pro-vie, d'être pour la vie, mais l'anti-choix qui est intégral n'est sans donner un filet social et sans favoriser la possibilité de d'accueillir des enfants, même quand ils sont imprévus, ce n'est certainement pas une façon de faire avancer la société. Et ça n'aide pas les femmes à s'élever. Ça ne responsabilise pas les hommes autour aussi. Bon, alors... Voilà, sujet délicat, c'est pas le moment d'entrer là-dedans, mais il reste que comme femme, elle sera sensible à ces choses. Il y a des dossiers intéressants qu'elle veut pousser. On sait le désastre qu'est la pandémie en ce moment aux États-Unis, les victimes, les contaminations, il n'y a aucun plan clair national et les gens sont donc pris à la gorge, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, qu'ils ne sont pas en mesure de travailler, qu'ils souffrent les conséquences d'avoir été infectés par la COVID. Et donc, Kamala Harris veut pousser des prestations mensuelles, un peu comme les prestations d'urgence qu'on a ici au Canada. Donc, au minimum 2 000 $ par Américain, jusqu'à 10 000 pour une famille, là, selon le nombre de personnes, et en rendant cela possible aussi comme prestation pour des gens qui seraient sans papier, mais qui sont sur le territoire. Donc, on veut pas laisser les gens de côté dans cette pandémie en essayant de rétablir et l'économie et la santé des États-Unis en général. Elle a aussi parlé dans le seul débat vice-présidentiel qu'il y a eu en octobre d'alléger les dettes au niveau des étudiants universitaires et de rendre plus accessibles les études postsecondaires. Et elle veut aussi se focaliser sur les collèges et universités à profit. Elle sera aussi intéressante à regarder comme figure de contrepartie de Amy Coney Barrett, la juge qui a été nommée à la Cour suprême, qui pour le moment, je dirais, est une figure assez difficile à saisir. Donc, chrétienne, catholique, on a fait beaucoup de cas de sa... d'elle comme un modèle catholique, mais c'est très divisé et cette division est représentative du clivage qu'on a dans l'électorat, voire l'épiscopat américain vis-à-vis ce que c'est la définition d'un vrai et d'un bon catholique. Donc, ce sera intéressant de voir comment ces deux figures, Kamala Harris et Amy Coney Barrett, vont évoluer. Et finalement, pour boucler la boucle avec ce que je disais au début sur la question raciale, Kamala Harris a laissé entendre qu'elle voulait avancer là, sur des questions de réforme au niveau de la police, des comportements dans les cas d'arrestation, avec l'utilisation de la force, en fait, dans l'intervention policière. Donc, ce sont un peu les choses à ce stade que moi, j'ai hâte de surveiller en ce qui la concerne.
Et c'est certainement qu'on va pouvoir en parler lors des prochaines émissions de Foi et Turbulence. Je vous propose aux auditeurs et auditrices de prendre quelques moments là, d'une pause musicale. On va revenir encore une fois sur la question des élections américaines tout de suite après. Alors, parlons maintenant des élections présidentielles américaines, mais avec un petit biais religieux. C'est le propre aussi de notre émission Foi et Turbulence de porter une attention spéciale à cet aspect-là. Et même si on parle d'une élection politique, il reste que l'aspect religieux a été extrêmement présent durant toute la campagne électorale. On comprend que les croyants, les chrétiens, musulmans, tout ça, votent bien sûr aux États-Unis. On sait que du côté des l'électorat religieux était très, très branché, en tout cas du côté républicain. On sait que ça a divisé fortement la population catholique entre appuyer un nouveau président qui est un catholique, Joe Biden, mais qui a des positions qui pourraient être vues comme contraires à l'enseignement catholique, alors qu'on a un président Trump qui se dit chrétien et qui compte, par exemple, toute la question de l'avortement, et donc va susciter beaucoup d'enthousiasme du côté des militants pro-vie qui sont souvent religieux. Vous, Francis Daou, vous êtes un bibliste et ce qui vous a particulièrement réjoui, je pense, c'est lorsque vous avez entendu le samedi dernier, le 7 décembre, le président Joe Biden, le président désigné, là, Joe Biden, déjà parler, utiliser la Bible à l'intérieur de son discours. En tout cas, c'est pas passé inaperçu pour vous.
Non, c'est pas passé inaperçu. C'est effectivement, François, c'est quelque chose qui m'a réjoui. Alors aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Simon disait tout à l'heure, mais je suis heureux de prendre le rôle de la personne qui réagit positivement là, aux événements de cette semaine. J'ai trouvé ça bien. Évidemment, le discours de Joe Biden, bon, le thème majeur, le thème principal, c'était vraiment un discours qui portait sur un discours rassembleur, donc sur l'unité. Il faut travailler ensemble. Il voulait mettre fin, bon, à la démonisation de l'autre et puis d'une certaine façon freiner l'espèce de polarisation là, à laquelle on assiste depuis quelques années. Et évidemment, bon, les deux passages de la Bible qu'il a cités, ils sont pas passés inaperçus pour moi. Donc c'est un passage en passant deux extraits qui viennent de l'Ancien Testament, donc le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste et le psaume 91. Et bon, d'abord, je pense qu'il faut faire la part des choses. Hein. Il y a un côté d'abord personnel à cette citation-là, et il y a un côté bon plus politique là, duquel je pourrais parler par la suite. Donc du côté personnel, je pense qu'on n'a aucun doute que Joe Biden connaît mieux sa Bible que Donald Trump. Hein. De la façon qu'il a cité la Bible, ça sentait, oui, c'est un discours qui est préparé à l'avance, mais la façon qu'il a cité les textes, ces deux textes-là de l'Ancien Testament, on voyait que c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Et on se souviendra, en 2016, Donald Trump, on lui avait... pour les premières élections qu'il avait mises au pouvoir, on lui avait demandé à répétition quel était son passage préféré de la Bible, et il répondait un peu comme il fait avec n'importe quel sujet, « Ah, il y en a tellement, la Bible, c'est tellement merveilleux, il y a tellement de beaux passages, je suis pas capable d'en nommer un seul, tellement il y en a que j'aime. » Et finalement, à force d'être poussé par les journalistes, il avait fini par répondre, « Eh bien, œil pour œil, dent pour dent, ça, c'est probablement le passage qui m'inspire le plus. » Alors, bon, ça aurait dû nous inquiéter déjà. Mais ce qu'on a vu, bon, avec Joe Biden, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien sa Bible. Et c'était très différent de ce qu'on a vu de Donald Trump là, en juin dernier, avec une espèce de coup de publicité où il a fait gazer des foules de protestants pour aller poser avec une Bible devant l'église Saint-Jean. Donc, Donald Trump tient la Bible dans ses mains et Joe Biden, lui, la cite et on voit qu'il la connaît bien. Et au niveau plus politique, au niveau plus stratégique, ce que je remarque, c'est que ce sont deux passages de l'Ancien Testament. Hein, Joe Biden est un catholique, il aurait pu citer le Nouveau Testament, mais je crois qu'il y a un choix qui est intéressant qui a été fait ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus rassembleur dans l'Ancien Testament qui est commun non seulement aux chrétiens, mais aux juifs aussi. Donc, c'est quelque chose de plus universel et c'est quelque chose dans lequel aussi les juifs, les musulmans peuvent se reconnaître jusqu'à un certain point. Hein, si on avait cité une parole de Jésus ou de Saint Paul, c'est pas reçu de la même façon. Oui, les musulmans considèrent Jésus comme étant un prophète, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Donc, en citant l'Ancien Testament, c'était vraiment un choix stratégique intelligent, selon moi, rassembleur. Et c'est pas seulement un passage de l'Ancien Testament. Si on subdivise encore la Bible, c'est un passage, ce sont deux passages de ce qu'on appelle la littérature de sagesse. Et la caractéristique principale de la littérature de sagesse, c'est que c'est une littérature qui est universelle. Ce sont des connaissances universelles dans lesquelles chaque être humain peut se retrouver. Donc, il est allé chercher un côté spirituel, il est allé chercher la Bible, mais en faisant ça, il s'est pas aliéné personne, il n'a pas mis personne de côté. Et l'autre côté qui est intéressant au niveau stratégique aussi, c'est que, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, François, c'est que les républicains, bon, sont de façon générale, bon, les républicains ont été mis au pouvoir. Une grande partie des électeurs de Trump sont des évangéliques, des chrétiens évangéliques. Et on a cette idée-là un peu aux États-Unis que si on est croyant, eh bien, on doit être républicain. Hein? Si je suis croyant, je vais à la messe, je dois voter pour républicain parce qu'il y a comme une espèce de monopole du parti républicain sur la question religieuse, alors que les démocrates seraient davantage bon, dans les questions sociales ou des choses comme ça. Alors, j'ai trouvé intéressant que Joe Biden fasse une espèce d'effort pour se réapproprier la dimension religieuse, pour dire c'est pas simplement républicain, on peut être croyant et voter démocrate, et c'est un premier pas. Et dans l'avenir, il y a une autre personnalité là, du monde du Parti démocrate qui est Pete Buttigieg, et lui il s'affiche clairement comme étant croyant, c'est quelque chose qui est très important pour lui, et ce sera intéressant de voir au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies aussi, parce que Pete Buttigieg il est très jeune, il est dans la trentaine, de voir comment ce mouvement-là, l'espèce de monopole de la politique des deux grands partis sur le discours religieux va évoluer.
Alors, parlons maintenant de la polarisation religieuse aux États-Unis. Il reste que c'est un pays qui est fortement divisé, et on le voit bien avec les résultats entre Donald Trump et Joe Biden. Sabrina, c'est la communauté catholique aussi qui est fortement divisée au lendemain de ce vote-là.
Absolument. En fait, un article il y a quelques jours du magazine américain Jesuit America rendait compte d'un sondage, juste un peu avant les élections, qui montrait que 50% des catholiques américains répondant au sondage avaient prévu voter pour Trump, tandis que 49% favorisaient Biden. Donc, c'est vraiment une division claire, tandis que chez les évangéliques blancs, c'est beaucoup plus majoritaire du côté de Trump. Donc, c'est très intéressant à voir. Francis a très bien résumé cette instrumentalisation de la religion dont Trump a été vraiment le protagoniste. Je trouvais que ce qui s'était passé avec la fameuse photo au mois de juin devant l'église épiscopalienne Saint-Jean était très symbolique de ça, mais voilà, il en a parlé. Mais c'est ça, en étant protagoniste aussi là, d'une ère post-vérité. Là, on a beaucoup parlé du post-truth, un apôtre de la désinformation qui a gouverné par tweet, mais d'une manière où on se dit que c'était vraiment malade à observer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment venu révéler, je dirais, cette division qui était peut-être plus caché sous la surface avant, mais chez les catholiques, ça a vraiment fait ressortir ces guerres culturelles, souvent, comme d'habitude, autour des questions qui concernent la vie, mais particulièrement l'avortement. On voit, c'est souvent là-dessus que ça se focalise. On voit rarement des grands, grands débats sur, par exemple, la peine de mort, alors même que l'encyclique Tous Frères, Fratelli Tutti, est récente, là, du pape François, donne un message clair sur le fait qu'il faut cesser d'utiliser la peine capitale. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, face à ça, Joe Biden se trouve donc à être le deuxième président catholique, Kennedy ayant été le premier. Et il se retrouve donc dans un paysage américain, états-unien, où il y a un mouvement anti-pape François. Qui est présent dans la communauté catholique, mais jusqu'aux Américains, jusqu'aux évêques, aux évêques américains. On a vu des divisions surgir aussi à ce niveau-là. On peut se rappeler que l'an dernier, en 2019, dans une église en Caroline du Sud, Joe Biden s'était fait refuser la communion au moment de s'approcher du prêtre dans la paroisse. Et c'est quelque chose qui est possible, se trouve en contrepartie des enseignements catholiques. Donc, voilà, ce sera à surveiller comment Joe Biden va pouvoir être une figure de réconciliation, peut-être pour les catholiques, naviguer cette politique très difficile entre Vatican, Conférence des évêques américains et Maison-Blanche. Je dirais finalement qu'il y a une mission d'unité autant pour les citoyens que pour les religions en général. Et il y avait cette très belle image qui a circulé samedi ou dimanche après les résultats, le montrant en train de recoudre un drapeau américain. J'ai trouvé ça très fort comme symbole.
Oui. Alors, merci beaucoup, Sabrina, pour ces réflexions. Écoutez, le temps file. Je voudrais juste demander à Simon Maltais si vous aviez des éléments là, de réflexion à ajouter, mais de façon très brève.
Ah oui, en fait, je pourrais peut-être juste mentionner que certains analystes se posent la question déjà, puisqu'un président peut, une personne peut se présenter comme président, peut faire deux mandats présidentiels, bien, est-ce que Trump va se représenter en 2024? C'est une possibilité. Ça dépend de quel point son ego narcissique va avoir été blessé par cette défaite, ou s'il va plutôt déménager, comme il l'a déjà évoqué. C'est à suivre. Disons qu'on va prendre avoir une meilleure idée déjà lors d'ici janvier, alors que Joe Biden sera officiellement élu président.
Alors, Trump en 2024. Alors, merci Simon pour nous parler de cela. J'ai l'impression qu'on va en reparler, en tout cas, à l'émission Foi et Turbulence dans les prochaines semaines et même dans les prochaines années. vous êtes toujours à l'écoute de l'émission de la Table Ronde Foi et Turbulence. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Sabrina Di Matteo de la Conférence religieuse canadienne, de Simon Maltais des éditions Novalis Bayard Canada et de Francis Daou de la Société catholique de la Bible. Alors, abordons un autre sujet. Le bon nombre de parents et surtout des enfants attendaient avec impatience ce 31 octobre dernier, la soirée de l'Halloween. En raison de la pandémie, l'idée même d'aller chez les voisins afin de recueillir des friandises était remise en question. Mais les autorités sanitaires ont finalement décrété que les jeunes pourraient participer à l'Halloween à condition, bien sûr, de respecter des règles précises. Mais cette soirée du 31 octobre s'est terminée dramatiquement à Québec, entre autres. Un homme de 24 ans, déguisé, a attaqué avec une épée des passants choisis au hasard. Il a enlevé la vie à deux personnes et en a blessé cinq autres dans le Vieux-Québec, près du château Frontenac. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a évoqué la santé mentale parmi les facteurs qui contribuent à de tels drames. Il est difficile, quasi impossible, de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale. Il faut dire que lorsqu'on a pu maîtriser le suspect, les policiers ont tout de suite indiqué que le suspect aurait agi pour des motivations qui n'étaient que personnelles et non pas des motivations politiques, ce qu'on a bien sûr craint pendant quelques instants en nous rappelant de mauvais souvenirs là, d'un autre attentat qui avait eu lieu à Québec. Simon Maltais, j'aimerais ça que vous me parliez en tout cas de cette soirée-là du 31 octobre. Comment vous l'avez vécu, comment vous avez vu et examiné là, les événements qui se sont passés à Québec?
D'abord avec trois filles, où est-ce qu'on a passé, on n'a pas passé l'Halloween, on est resté à la maison faire une chasse aux bonbons, on a fait une version alternative pour éviter, en tout cas pour limiter les risques de contagion. C'est le soir même, j'ai vu les nouvelles commençaient déjà à sortir et l'histoire est assez est très glaçante. On voit, je ne sais pas s'il y a un lien, bon, les experts en tout cas ne semblent pas s'entendre sur le fait s'il y a un lien entre directement la situation de la pandémie, les problèmes de santé mentale que ça peut apporter et ce qui est arrivé dans le Vieux-Québec. Ce que je voudrais souligner on sait maintenant que c'est l'homme qui a perpétré cet attentat-là avait des graves problèmes psychologiques déjà. Si je me rappelle bien, il souffre de schizophrénie. Ce qui est tragique un peu dans cette histoire-là, c'est qu'il il n'a pas reçu les soins. Il était sur des listes d'attente pour pouvoir avoir accès à des soins psychiatriques et il n'a pas pu les recevoir. En fin de semaine, à l'émission Tout le monde en parle, il y avait sa sœur qui était présente, qui parlait un peu des dernières semaines, des deux dernières semaines avant le 31 octobre. Et c'est comme je dis, c'est assez tragique. Dans une phase de folie, il aurait attaqué sa mère, il s'est retrouvé en prison, il est encore sur la liste d'attente, il a été libéré, toujours dans l'attente de pouvoir être mieux encadré, ce qui fait que ça excuse en rien son geste, bien sûr. C'est tragique pour les victimes, c'est triste et pour les gens qui les entourent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement eu un problème de filet social ici, quelque chose qui aurait pu être empêché si on avait eu plus de ressources, qui aurait permis de prendre en compte la détresse de cet homme-là et de lui donner les soins dont il avait besoin.
Ben, alors, je vous rappelle que le lundi 2 novembre, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour permettre d'agir sur plusieurs plans afin d'améliorer l'offre de soins et de services psychosociaux et en santé mentale pour la population du Québec, notamment pour que ça puisse avoir un effet sur les longues listes d'attente en santé mentale. Cette annonce devait se faire 10 jours plus tard, mais elle a été devancée, évidemment, en raison des circonstances des derniers jours, a expliqué le ministre Carman. J'aimerais vous entendre brièvement là-dessus, Sabrina Di Matteo. On sent vraiment une détresse psychologique, en tout cas, et bien sûr derrière ce geste-là, mais aussi dans l'ensemble de la société.
Oui, je pense que ça va être sans doute un des très grands défis de cette deuxième vague de la pandémie, parce que on entre dans un marathon. On avait en mars, il y avait cette dynamique en mars quand on a vécu le confinement, de vraiment de la peur, mais aussi de la nouveauté dans laquelle on se trouvait, et vraiment le facteur ça va bien aller nous a tenu pendant un certain temps, même dans les moments les plus difficiles. Mais maintenant, avec les retours à l'école, la complexité du quotidien des parents, moi, mon fils est grand, il est à l'université, il se trouve à tout faire en vidéoconférence. C'est déjà lourd pour lui, mais je compatis encore plus avec les familles qui ont des jeunes enfants, qui sont pris avec des éclosions qui se déclarent dans les salles de classe, les tests, garder les enfants à la maison. Alors, c'est extrêmement complexe. Et donc, tout le monde est touché, peu importe l'âge, que ce soit les aînés qui peuvent revivre un isolement dans les résidences avec la peur des éclosions qui peuvent reprendre, les parents donc qui sont aux prises avec la gestion familiale, le télétravail, ces réalités scolaires dont je parlais, et les adolescents, les jeunes adultes dont tout le quotidien scolaire est chambardé, qui n'ont plus accès au sport, dans les sports d'équipe, ou aux loisirs, parce que tout est fermé tandis qu'on est en alerte rouge. Donc, tout le monde est touché par ça, et ça devient très difficile. Je voyais aussi, en fait, non seulement ça touche la population de façon généralisée, et donc représente un défi collectif, voire politique, c'est que même les personnes qui travaillent dans l'intervention en santé mentale se trouvent eux-mêmes à vivre de la détresse. Il y avait une nouvelle sur les employés de Jeunesse J'écoute qui eux-mêmes ont à jongler avec la fatigue de compassion, le fait de se sentir un devoir de performance dans le travail, et d'avoir de la difficulté donc à se remettre eux-mêmes sur pied à travers un quotidien puis un travail difficile. Donc c'est vraiment généralisé et complexe. La seule chose que j'ajouterais, en tenant compte là, qu'on est à Radio-VM, notre auditoire peut avoir la spiritualité comme un facteur de résilience important, et je trouve que ça serait très important et intéressant que nos communautés de foi, quelles que soient en fait les traditions religieuses, puissent maximiser l'offre d'écoute et d'accompagnement pour pouvoir, même si on ne peut pas toujours se réunir en lieu de culte ou que les groupes sont minimaux pour les rencontres de prière et de culte, eh bien qu'on puisse trouver des manières d'offrir cet accompagnement humain dans un premier temps. Souvent, c'est un premier palier, simplement d'être écouté et d'échanger avec quelqu'un avant peut-être d'avoir besoin de référer à un autre palier pour de la détresse psychologique, par exemple. Donc, il faut qu'on puisse collectivement, comme société, prendre acte des besoins actuels.
Alors, merci Sabrina pour ces réflexions. En terminant ce segment de l'émission, brièvement, Francis Daou, vos réflexions, vous, sur les événements de la soirée de l'Halloween?
François, peut-être que vous allez regretter de m'avoir posé cette question-là, parce que personnellement, oui. c'est un sujet qui mérite beaucoup. Moi, j'ai pas porté attention à cette histoire-là quand j'en ai entendu parler. J'ai pas voulu en savoir davantage. Je suis conscient de que oui, il y a des problèmes avec le filet social, des problèmes en santé mentale, que c'est important d'investir à ce niveau-là. Mais je suis moins à l'aise avec cette réaction-là du gouvernement qui dit bon, le montant de 100 millions de dollars, c'était déjà prévu, on l'a devancé, mais je me demande un peu quel genre de message est-ce que ça nous envoie, et toute l'emphase qui est mise sur ce personnage-là, de dire bon, mais s'il y a un problème de santé mentale, on va investir des millions de dollars dans ça. Est-ce que c'est la façon de se faire entendre quand on a un problème, une difficulté, on va dire bon, mais pauvre personne, lui, il était schizophrène, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait, ou peu importe, mais est-ce que si moi j'ai un problème d'une autre nature, est-ce que je vais aller commencer à tuer des gens pour qu'on porte attention à ce problème-là et que là, le gouvernement se mette à investir des montants là-dedans? Et l'autre chose, c'est le... Bon, vous avez parlé des attentats à Québec. Il y a eu d'autres attentats à Québec. L'attentat à la mosquée. Et puis, est-ce que le gouvernement a investi des montants pour... c'est un acte qui était fondé sur une haine envers une communauté religieuse. Est-ce qu'il y a des montants qui ont été investis, des centaines de millions de dollars dans ça? Non. Alors, c'est un peu deux poids, deux mesures. Et je reviens sur cette chose-là, l'accent qui est mis sur les personnes qui commettent des actes comme ceux-là. Quand je me suis, pour le bien de l'émission, je me suis informé sur cette histoire-là. Et la première information que j'ai eue, c'était le nom de la personne. Et en Nouvelle-Zélande, l'an dernier, en 2019, quand il y avait eu la tuerie à Christchurch, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, avait dit, on va pas publier le nom de cette personne-là. On va pas comme en faire une célébrité, quelqu'un d'important. On va pas parler, où tout le monde en parle, néo-zélandais. Cette personne-là ne mérite pas notre attention. Peut-être sa situation, qu'est-ce qui a motivé ses actions. Mais moi, je serais pour cette chose-là de garder sous silence pour pas encourager d'autres personnes, garder sous silence l'identité de la personne pour pas encourager d'autres personnes qui pourraient se dire, moi aussi, je vais avoir mon 15 minutes de gloire.
Alors, merci beaucoup, Francis Daou, pour ces réflexions-là, en tout cas, qui nous ouvrent sur plein d'autres possibilités de réflexion, en tout cas, auxquelles on conviera nos auditeurs et auditrices dans les prochaines semaines. Merci. Alors, vous êtes toujours à Foi et Turbulence. Il nous reste encore quelques minutes à cette émission-là. Bon nombre de sujets particulièrement profonds, en tout cas, sur lesquels on discute aujourd'hui. Et je vous emmène là au Vatican. Hier, le 10 novembre, le Vatican a publié un rapport qui détaille en plus de 450 pages le dysfonctionnement qui ont permis à un homme, Theodore Edgar McCarrick, un prêtre, un évêque, un archevêque et même un cardinal, d'accéder aux plus hautes fonctions dans l'Église catholique alors que des allégations et des plaintes sur son comportement sexuel sont connues depuis longtemps, mais qu'elles ont été jugées non recevables. C'est une enquête qui révèle que des évêques américains chargés d'enquêter sur les allégations ont fourni au Vatican des informations erronées et incomplètes. Et ça a permis, entre autres, au pape Jean-Paul II de nommer archevêque de Washington le cardinal Theodore Edgar McCarrick, alors que ses proches conseillers lui déconseillaient de poser un geste semblable. Je vous rappelle que c'est en juin 2018 que le Vatican a suspendu le cardinal McCarrick de son ministère après qu'une enquête de l'archevêché de New York ait conclu à la crédibilité d'une accusation selon laquelle il aurait abusé sexuellement d'un adolescent. Monseigneur le cardinal McCarrick a démissionné du Collège des cardinaux et ensuite il a été démis complètement de ses fonctions sacerdotales. J'aimerais vous entendre, Sabrina Di Matteo. On a plus de temps quand même. Hein? Je vous rappelle, il reste plus de temps à l'émission, mais Sabrina Di Matteo, j'imagine que vous avez lu ce rapport-là, peut-être en tout cas certainement le résumé. C'est un rapport qui est particulièrement bouleversant.
Absolument. J'ai pas lu 450 pages, mais le résumé qui est sorti et plusieurs articles. Je peux peut-être juste, en fait, et j'en sors avec énormément de questions en me disant que c'est tellement complexe. Ça serait facile de dire, de tenir Jean-Paul II comme seul responsable, bouc émissaire de ça. Je crois que ce que le rapport révèle, c'est que tous ont eu une responsabilité autour de Jean-Paul II, que ce soit des évêques américains, des gens à la curie romaine qui n'ont pas fait le travail d'enquête alors qu'il y avait plusieurs allégations répétées. Et évidemment, Jean-Paul II lui-même qui n'a pas cherché à déclencher une enquête pour éclaircir les allégations. Benoît XVI lui-même n'a rien fait, n'a pas sanctionné, a simplement demandé à McCarrick de se retirer doucement, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Il a fallu donc l'intervention du pape François pour vraiment imposer une sanction. Dans ce cas-ci, la mysticisation. Ce qui est intéressant avec McCarrick, c'est qu'au moment où ça se passe, on est en fait dans une tempête parfaite. On se rappelle qu'en août 2018, il y a le rapport du grand jury de Pennsylvanie sur les abus qui ont eu cours dans les diocèses de cet État. Il se passe aussi la visite du pape au Chili, où les évêques finiront plus tard par remettre leur démission parce qu'ils n'ont pas géré et donné suite à des cas d'abus. Voilà, donc il y a eu un peu cette tempête parfaite. Et McCarrick, dans cette période, il représente un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusque-là, on avait surtout parlé des mineurs, les agressions sur mineurs. Et avec McCarrick, on commence à parler des adultes vulnérables, dans son cas, des jeunes séminaristes, mais aussi des mineurs aussi, dans les années 80. On voit avec lui non seulement des questions d'agression, mais l'ampleur et tout le registre des abus spirituels, des manipulations psychologiques et des abus financiers, parce qu'on sait qu'en 2001, il a été révélé qu'il avait versé plus de 600 000 $ américains à du clergé à Rome, des bureaucrates au Vatican, des conseillers papaux. Alors, c'est incroyable comme scandale. Et maintenant, peut-être que la plus grande question, et il faudrait y revenir sûrement dans une autre émission, ça vaudrait la peine, c'est qu'une fois qu'on a vu la complexité de cette culture du secret et de la responsabilité partagée par toutes sortes de personnes dans la hiérarchie autour de ça, comment est-ce qu'on agit? Quelles sont les conséquences réelles pour punir les personnes qui ont été complices de cette culture du secret et de la manipulation qui a eu cours et qui a donc fait des victimes, qui continuent d'être victimes là-dedans, qui ont peut-être pu s'en sortir psychologiquement, mais qu'est-ce qu'on fait pour elles? Parce que ultimement, c'est leur souffrance qui est la question au cœur de ces enjeux. Et il ne suffit pas d'un rapport de 450 pages pour régler cette souffrance. Il faut absolument que ce rapport nous permette d'avancer et qu'il y ait des conséquences. Bien sûr, on a mis en place beaucoup de protocoles de prévention et les diocèses ont des pratiques de pastorale responsable. Mais voilà, c'est un dossier qui a une charge symbolique, mais aussi une charge très concrète sur les mesures qui peuvent être prises pour donner suite.
Alors, je vous rappelle que le rapport sur l'affaire McCarrick compte plus de 450 pages et c'est le genre de livre là qui a tout pour plaire à un éditeur comme vous, Simon Maltais. C'est une série de successions d'événements, des intrigues, des scandales, des rencontres secrètes, des lettres anonymes. Vraiment un texte en tout cas qui n'est pas très édifiant quand ce n'est pas de la fiction. Mais il reste que c'est un rapport qui est quand même assez exhaustif. C'est ce que vous avez remarqué?
Oh oui, tout à fait. En fait, on peut déplorer que le rapport ne pointe pas de façon plus claire ou ne donne pas de façon plus claire des responsabilités dans les événements. En même temps, étant donné la complexité de toute cette histoire, peut-être que les rédacteurs n'ont pas osé aller dans cette direction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est un rapport qui est très exhaustif et le Vatican a décidé de jouer la carte de la transparence cette fois-ci. Ce qui est très positif en soi, je crois, et qui dénote d'un changement de culture, ou à tout le moins une plus grande attention portée sur ces enjeux-là. On pourrait se dire, bon, ben, ça arrive tardivement, parce que bon, la société civile porte attention, porte de plus en plus attention à la question des agressions sexuelles et spirituelles, mais c'est positif que le Vatican soit rendu là aussi et qu'il y a une correspondance entre le drame qu'on perçoit que c'est d'un point de vue social et le drame qui est maintenant perçu d'un point de vue ecclésial.
Alors, je vous rappelle que le rapport est toujours disponible, en tout cas dans le site web du Vatican. On peut le télécharger. Il existe en anglais, toutefois, il n'est pas en français. Mais je vous signale aussi que dans les premières pages de ce rapport-là, et c'est la première fois que je vois ça à l'intérieur d'un document qui est publié par le Vatican, il y a clairement la mention « Certaines parties de ce rapport ne doivent pas tomber dans la main de jeunes enfants. » Parce qu'il y a des termes trop scabreux à l'intérieur du document. Il y a aussi un autre élément que j'ai remarqué, c'est à l'intérieur du texte, Francis Daou, et je vous le fais un peu à la blague, mais il est rarement question de la Bible à l'intérieur de ce rapport-là. On parle de peut-être que le cardinal McCarrick était à la Société catholique de la Bible des États-Unis, un des conseillers, mais on ne lui reproche rien dans cette fonction. Mais il reste que si on parle pas beaucoup de la Bible, j'ai l'impression que c'est pas très évangélique, en tout cas ce qu'on lit dans ça. Vous avez une minute pour réagir, Francis.
Oui, bien écoutez, si on veut regarder, François, du côté biblique, la chose qui, en tant que bibliste, là, qui a toujours le nez à l'intérieur de la Bible, s'il y a les passages de la Bible qui me reviennent, c'est vraiment des passages autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament qui parlent des leaders spirituels. Et à ce niveau-là, que ce soit Jésus, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit les prophètes dans l'Ancien Testament, les messages sont très, très, très durs à l'endroit de ces personnes-là. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes peuvent être très durs avec les prophètes de Baal, avec les Assyriens, avec les rois étrangers, mais les personnes qui sont au sujet desquelles les oracles sont les plus sévères, les plus durs, ce sont les leaders spirituels et ceux qui ont la responsabilité du troupeau de Dieu, du peuple de Dieu, et puis qui n'utilisent pas qui remplissent pas cette responsabilité-là. Alors, on pourra garder ça comme réflexion pour ce sujet-là qui est très, très vaste et qui mérite là, d'être traité davantage.
Alors, merci Francis. Alors, quelle émission? Alors, je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 25 novembre 2020. On vous y donne déjà rendez-vous. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Sabrina Di Matteo, Simon Maltais et Francis Daou. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la Rive. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.